Aujourd'hui, je suis en ligne avec Philippe Blanchet, enseignant-chercheur à l'Université Rennes 2, membre élu du CNESER, le Conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche, et membre du Conseil supérieur de l'éducation. Tout d'abord, bonjour à vous et merci d'avoir accepté cet entretien.
Eh bien, bonjour, avec plaisir.
Alors, si je vous ai sollicité aujourd'hui, c'est pour revenir sur une annonce. J'allais dire quelque peu passée à la trappe, mais on pourrait même dire passée sous silence. Cette annonce, elle concerne la LPPR, la loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Alors, cette loi, elle est présentée de la part du gouvernement comme évidemment quelque chose de très positif, une loi qui aurait pour but d'augmenter les budgets et financements à destination de la recherche universitaire. Le gouvernement met d'ailleurs en avant des chiffres de l'ordre de 25 milliards d'euros supplémentaires pour la recherche publique d'ici 2030, soit 5 milliards de plus qu'actuellement. Bon, déjà, cette programmation budgétaire, il s'avère qu'elle s'étale finalement sur 10 ans au lieu de 7. Mais au-delà de cet allongement, qu'est-ce qu'il vous inspire ces chiffres? Qu'est-ce que ça représente concrètement pour la recherche? Est-ce que c'est suffisant?
Alors, deux choses. Ça m'inspire d'abord le fait qu'effectivement, c'est loin d'être suffisant parce que ces chiffres sont calculés comme si on partait d'une situation, on va dire, correcte ou normale, à laquelle on voudrait ajouter plus de confort. Alors qu'on part d'une situation de détresse financière dramatique de la plupart des universités, en tout cas, et de la recherche en France. Et donc, finalement, ces chiffres ne permettraient à la rigueur que de combler une partie du retard sans même nous ramener vraiment à une situation normale. Et puis, la deuxième chose, c'est que ces chiffres sont un trompe-l'œil parce que on fait semblant, d'ailleurs, c'est pour ça que la ministre a appelé sa loi de programmation pluriannuelle pour la recherche, en faisant semblant que c'était juste une loi de programmation budgétaire. En fin de compte, c'est une façon d'acheter la recherche, les chercheurs, les établissements, en leur disant « je vais vous donner de l'argent, mais je vais vous obliger à utiliser cet argent d'une certaine façon ». Qui est justement une façon qui est largement rejetée par la communauté universitaire et par les chercheurs. Et donc, d'ailleurs, même le Conseil d'État, quand il a examiné la loi, il l'a renvoyé au ministère en disant qu'il fallait changer son intitulé parce que c'est pas une loi de programmation budgétaire exclusivement, c'est une loi de transformation de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'argent, c'est un prétexte à faire avaler la pilule.
Vous le disiez, hein, cette loi est loin de faire l'unanimité, notamment du côté des universitaires dont vous faites partie. Donc cette loi, on en entend parler grosso modo depuis fin 2019 et l'essentiel des critiques se concentre autour essentiellement de deux craintes majeures, celle d'une précarisation et d'une privatisation accrue de la recherche et de l'université française. Ce sont aussi vos craintes, c'est comme ça que vous résumeriez la chose?
Oui, je résumerai la chose de cette façon-là, je suis tout à fait d'accord, effectivement. Dès qu'on a vu apparaître les premiers rapports préparatoires rédigés par un tout petit cénacle de quelques responsables d'universités parisiennes à l'automne 2019, et dès qu'on a entendu les premières fuites sur le projet, on a compris de quoi il s'agissait. Donc effectivement, il s'agit de renforcer la précarité en rendant possible d'employer davantage encore des enseignants-chercheurs et des chercheurs sur des contrats précaires, justement. Donc, ils ont quand même été jusqu'à inventer le contrat à durée déterminée, indéterminée, c'est-à-dire qu'ils nous font croire ce qu'ils appellent les contrats de projet. Ce sont des contrats à durée déterminée, mais qui peuvent dépasser la durée légale des CDD, en nous faisant croire que du coup, c'est plus un contrat à durée déterminée, puisque ça peut durer toute la longueur d'un projet de recherche. Mais à la fin, la personne, son contrat s'arrête, elle n'est pas en CDI, hein. Donc le but, c'est d'essayer de multiplier les contrats qui permettent de recruter des gens de façon précaire sur des contrats privés hors du statut de fonctionnaire et donc du statut d'enseignant-chercheur, qui est un statut qui bénéficie d'une protection particulière. Effectivement, le deuxième aspect, c'est la privatisation avec une université au sens générique du terme, hein, toujours moins financée de façon stable, de façon récurrente, pérenne, on dit parfois aussi, et toujours plus encouragée à trouver de l'argent ailleurs et à répondre à des appels à projets, alors que tous les chercheurs, tous les établissements ont montré que depuis, en gros, une petite vingtaine d'années, mais surtout depuis la LRU, donc depuis la fin des années 2000, cette course au projet permanent, c'est complètement destructeur pour l'université, à la fois parce qu'on passe son temps à chercher les moyens de travailler au lieu de travailler, et ensuite parce que ça met en compétition, pour se partager un maigre gâteau, des gens qui devraient au contraire être mis en situation de s'entraider et de collaborer. Alors, ces deux aspects majeurs que vous avez très justement cités, ils ont un troisième effet, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi la destruction de l'université comme service public, puisqu'on tend vers la précarisation, mais aussi du statut d'enseignant-chercheur fonctionnaire d'État, qui est un statut tout à fait particulier. D'ailleurs, ça s'appelle comme ça, hein, il y a un décret qui porte statut particulier des enseignants-chercheurs, puisque nous échappons à la plupart des règles de la fonction publique pour garantir notre indépendance absolue. Et le fait que nous soyons indépendants pose évidemment beaucoup de problèmes au pouvoir politique qui voudrait bien mettre la main sur les universités et les orienter à sa façon, y compris mettre la main sur la recherche, ce que pour l'instant il peut pas faire, puisque nous avons toute liberté de dire ben, « vous pouvez bien nous dire ce que vous voulez, nous on s'en fiche, on est indépendants, on fait ce qu'on veut ».
Bon, bah, vous avez parfaitement anticipé ma future question. C'était ça, ce volet important de la loi qui concerne les métiers de la recherche et cette mise en place de CDI de mission pour recruter des chercheurs seulement le temps d'un projet. Vous l'avez dit et c'était assez clair. Il s'agit en réalité de CDD et pas de réel CDI. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe dans les politiques économiques mises en place depuis des années, de toute façon, pour tous les corps de métier. Comment vous expliquez ce choix de choisir la précarisation des jeunes chercheurs et doctorants pour ce métier qui jusque-là était protégé justement?
Alors, je l'explique, et je ne suis pas le seul, je crois que tout le monde a fait la même analyse, hein, par le fait que on est face à un gouvernement qui, probablement de façon pire encore que les gouvernements précédents, mais dans la continuité, est enfermé dans une idéologie qu'on appelle néolibérale, qui est une idéologie selon laquelle on croit que la mise en compétition privée, la mise en compétition des individus, tous et toutes les uns et les unes contre les autres, c'est la meilleure façon de faire fonctionner un organisme, une institution, un secteur de la vie sociale et économique, et puis les sociétés en général. Et ces gens-là sont complètement aveuglés, on a d'ailleurs dit qu'ils étaient sourds et aveugles à tout ce que la communauté essaye de leur faire entendre. Ces gens-là sont aveuglés par cette certitude, c'est une espèce de croyance religieuse d'une certaine façon, au mauvais sens du terme, vous voyez ce que je veux dire, hein. Et donc, ils sont persuadés que c'est comme ça que ça marchera mieux, et que finalement, le fonctionnement actuel des universités, c'est un fonctionnement qui pour eux n'est pas acceptable, il n'est pas conforme à leur idéologie, et si vous observez bien, c'est d'ailleurs assez affligeant, vous vous rendez compte que dans les 30 dernières années, la plupart des secteurs de la vie de nos sociétés ont été privatisés, mis en compétition, et ceux qui restent encore, l'éducation notamment, ben ils sont en train de les attaquer après avoir privatisé les transports, les autoroutes, les trains, les aéroports, après avoir privatisé les assurances, les banques. Enfin, vous voyez, c'est assez hallucinant de voir ce programme se dérouler au fil des décennies, où tout ce qui est service public de base à la population, même l'eau, l'énergie, l'électricité, le téléphone, tout ça bascule dans les mains d'entreprises privées, ce qui permet aux gens de ce petit milieu de s'enrichir davantage encore et de faire justement d'appliquer cette idéologie selon laquelle l'idée même d'un service public est pour eux quelque chose qui est une sorte d'hérésie. Et donc ils veulent faire la même chose avec l'université, avec la recherche scientifique, parce que ça peut leur rapporter de l'argent, parce que c'est conforme à leur vision du monde. Et aussi parce qu'ils sont, comme on le disait, sourds et aveugles, totalement incapables d'entendre, y compris des gens qui sont proches d'eux. Là, ils se sont retrouvés avec face à eux toutes les instances consultatives. Je pense par exemple, alors le CNESER est une instance où sont représentés de très nombreux syndicats, de très nombreux secteurs, qui a émis des avis très négatifs sur le projet de loi, même s'il y a eu une manipulation de vote tard dans la nuit, mais qui ne tient pas. Pensez au Conseil environnemental, Conseil économique, social et environnemental, qui est une instance constitutionnelle quand même, qui a donné un avis totalement négatif sur ce projet de loi, dont la phrase clé était « peut-on sauver la recherche avec ce qui l'a rendu malade? Vous voyez, donc on vraiment des organismes où toute la société est représentée, donc c'est pas que des syndicats contestataires qui seraient forcément pas d'accord, c'est tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas ça dont la recherche a besoin, c'est pas ça dont l'enseignement supérieur et les universités ont besoin. Mais ils peuvent pas entendre, ils veulent pas entendre. On a beaucoup parlé à propos de ce gouvernement d'une forme d'arrogance, d'être absolument toujours sûr de soi et de n'écouter personne. Eh bien, ça a été le cas pour tout ce qu'ils ont pris comme mesures concernant les universités depuis qu'ils sont au pouvoir. Et là, ils continuent.
D'ailleurs, de la même manière, pour revenir sur la LPPR, il y a quelque chose aussi qui attire l'attention, c'est ce but de favoriser les financements par appel à projets, plutôt que des financements qu'on pourrait dire pérennes. Ça aussi, ça s'inscrit dans cette logique qui sort du cadre normal des universités. Pourquoi choisir des financements davantage sélectifs qui, là, évidemment, fragilisent, je suppose, le développement global de la recherche?
Alors ça, c'est aussi un choix idéologique, clairement. C'est parce que ces gens-là sont persuadés, d'abord, qu'une société doit fonctionner de façon hiérarchisée avec... en haut de la pyramide, les excellents, je viens de lire un document sur la recherche où on parle de highly talented, voilà, des gens hautement surdoués, vous voyez, il y aurait les seigneurs qui seraient tout en haut, qui auraient tous les dons des dieux, et puis petit à petit en descendant, une échelle hiérarchique, il y aurait des gens qui seraient moins bons, et puis des gens qui seraient pas bons du tout, et puis des gens qui seraient carrément mauvais. Ce qui est évidemment absurde, parce que quelqu'un qui a réussi toutes les études et toutes les étapes pour devenir chercheur ou enseignant-chercheur, on peut imaginer qu'a priori, cette personne, elle est quand même pas trop mauvaise dans son travail, sinon elle serait jamais arrivée là. Mais bref, ils ont une vision hiérarchique, c'est vraiment une idéologie de l'échelle, hein, et donc pour eux il faut toujours mettre en compétition, c'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de parler d'excellence, qu'ils n'arrêtent pas d'utiliser toute cette terminologie de la hiérarchie, quoi. Il y a les très bons et puis il y a les autres et on ne s'intéresse qu'aux très bons, où on part du principe qu'en mettant les gens en concurrence ils vont essayer de devenir aussi bons que les très bons pour pouvoir avoir leur part du gâteau. Donc il y a cette idée-là, hein, que la société est forcément hiérarchisée, et puis il y a l'idée que l'engagement pour un service, en l'occurrence qui serait public, sur la durée, c'est pas possible, hein. On doit fonctionner comme une entreprise qui court après un marché, qui obtient un marché, qui produit, qui vend, et puis une fois qu'elle a réussi à vendre, et ben elle doit trouver de nouveaux clients à qui elle doit, disons qu'elle doit convaincre de lui acheter à nouveau quelque chose en lui donnant à nouveau de l'argent, etc. On est vraiment dans cette logique-là, cette logique de l'appel à projet s'est développée en gros à partir de la fin des années 90 en France en tout cas, et elle est terrible parce que les gens passent leur temps, comme je le disais tout à l'heure, à chercher les moyens de travailler plutôt qu'à travailler, ce qui est une absurdité, quoi. On est payé pour chercher les moyens de travailler. Et puis parce que pendant qu'on fait ça, on ne fait pas de la recherche, et puis on ne peut jamais travailler sur le long terme, disons dans la sérénité, paisiblement, avec de la sécurité. Or, la recherche, c'est pas seulement trouver des petits trucs rapidement, vite fait, mais c'est aussi poser des problèmes fondamentaux qui sont traités pendant des décennies et des décennies. Et du coup, ils sont tellement aveuglés par cette idéologie-là de la course au projet à court terme, de la mise en compétition où les meilleurs doivent gagner et les autres doivent perdre, que ils ont concédé que effectivement les universités et les unités de recherche manquent de moyens stables. Ils ont accepté cette idée parce que c'est vrai que les budgets des unités de recherche sont ridiculement bas, surtout dans notre domaine en sciences humaines et sociales. Alors ils ont dit d'accord, on va vous en donner davantage. Alors on s'est dit bon, ils ont au moins compris ça. Et puis finalement on a découvert que non, ils vont nous en donner davantage à travers les appels à projets. C'est-à-dire qu'ils ont, tout comme ils ont inventé le contrat à durée indéterminée déterminé, ils ont inventé le financement récurrent sur projet. Et donc ils ont mis en place un système où quand on obtiendra un projet, il y aura une part de la dotation qui devra être partagé avec le reste des unités de recherche de l'établissement. Ça reste encore à définir, c'est pas clair cette affaire-là. Et ça sera considéré comme un financement récurrent. Mais évidemment, il n'est pas récurrent. Et puis en plus, vous imaginez bien ce que ça va donner. C'est-à-dire ceux qui vont rapporter l'argent avec des projets, ils vont être dans une situation de pouvoir, et ça va créer des tensions terribles avec ceux à qui ils vont devoir reverser une partie de l'argent obtenu et qui, eux, de leur côté, n'ont pas réussi à l'obtenir. Enfin, c'est complètement délétère. Mais ils arrivent pas à penser autrement le monde, la vie, le travail. Voilà, on est vraiment, je vous dis, dans des gens complètement aveuglés par une idéologie.
Oui, finalement, il s'agit, ce projet de loi, il vise à inscrire l'université dans cette logique ultra libérale, comme tout ce à quoi touche le gouvernement, finalement. Il s'agit de le mettre sur le même niveau, quoi.
Absolument, c'est ça. Il s'agit de passer à la moulinette de l'économie libérale, au sens strictement économique du mot libéral, évidemment, hein, pas au sens politique du terme. Il faut passer l'université et la recherche à la moulinette du libéralisme, tout comme, je le disais juste avant, ils l'ont fait, ils l'ont même fait pour les hôpitaux. On a bien vu à quoi ça aboutit, hein. D'ailleurs, un des articles, quand la loi a été publiée, parce qu'ils l'ont longtemps caché, ils l'ont publié très tard, parce qu'ils avaient très peur de la réaction, il y a eu un article dans Le Monde où on comparait la situation des universités à celle des hôpitaux. C'est l'exacte vérité. Moi-même, j'ai d'ailleurs fait des déclarations en ce sens, hein. Ils ont passé les hôpitaux à la moulinette du néolibéralisme, et on voit ce que ça donne. Un hôpital, c'est pas fait pour fonctionner comme une entreprise, et au final, ben, ils sont dans une crise dramatique, y compris quand ils doivent faire face à une épidémie. Et ben, ils veulent faire la même chose avec les universités. C'est tout le monde doit passer à la moulinette de cette idée selon laquelle il n'y a qu'une solution, il n'y a qu'un Graal, qu'une seule Bible, c'est le modèle de l'entreprise capitaliste concurrentielle.
Ce projet de loi, il a suscité depuis le début de vives critiques. Vous en avez parlé du Conseil économique, social et environnemental, aussi du Conseil national des universités. Et pourtant, ce projet de loi, il a été présenté au Conseil des ministres cet été, entre deux confinements donc, de manière légèrement dissimulée. Et il a en plus fait l'objet d'une procédure accélérée pour être voté en septembre et finalement adopté par le Sénat fin octobre. Est-ce qu'on peut clairement parler d'un passage en force de la loi autour de laquelle, en plus, aucune communication n'a été faite ?
Ah oui, c'est clairement non seulement un passage en force, mais c'est même une préparation en force, parce que contrairement à ce que prétend la ministre, il y a eu très très peu de consultations, uniquement avec un petit cénacle de gens qui étaient favorables à cette loi. Comme vous le savez, ils avaient mis en ligne les rapports de ce petit cénacle en demandant aux gens, aux professionnels de la recherche de réagir, et ils disent que ça c'est une consultation, mais quand vous regardez combien il y a eu de gens qui ont répondu, c'est à peine quelques milliers, moins de 10 000, si mes souvenirs sont bons, c'est entre 6 et 7 000 personnes qui ont répondu, alors que cette loi concerne plusieurs dizaines de milliers de professionnels, et bien sûr aussi d'ailleurs les étudiants et les étudiantes qui, d'une part, bénéficient de la recherche parce que c'est par la recherche qu'on met en place un enseignement supérieur, mais aussi dont une partie vise l'insertion dans les métiers de la recherche et dans l'enseignement supérieur. Et donc, c'est potentiellement même des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui auraient dû être consultées, et ça tourne à quelques milliers, moins de 10 000 personnes. Donc, c'est une préparation en force, cachée. Personne n'avait le texte de la loi, ils ont fait fuiter de temps en temps quelque chose pour voir comment ça réagissait. Comme ça réagissait très mal, ils ont fait fuiter le moins de choses possible. Et puis, brutalement, alors que le président de la République avait garanti que pendant la crise sanitaire, il n'y aurait pas de poursuite des projets de réforme législative, la loi sort et passe effectivement en procédure extrêmement assez accélérée. Il faut quand même savoir que la loi a été communiquée aux universités un dimanche soir, pour vous donner une idée, hein, parce qu'elle devait passer dans la semaine dans les premières instances, dont le CNESER qui était la première instance consultée. Et le CNESER, ça a été un bon exemple, hein. Les membres du CNESER ont refusé de siéger sur un texte aussi important qui leur avait été communiqué moins de 48 heures avant. Ils ont accepté de reporter de 2 jours seulement. Donc le CNESER a siégé. De très nombreux amendements ont été votés, y compris des suppressions de toute une série d'articles à la majorité du CNESER. La ministre a refusé d'interrompre le CNESER à 19h le soir, alors que son règlement intérieur prévoit que les séances s'arrêtent à 19h. Elle l'a maintenu toute la nuit, ce qui veut dire que la plus grande partie des représentants étaient partis. Ils ne pouvaient plus être là, y compris parce qu'ils viennent de toute la France, c'est des élus. Et elle a fait voter à 7h moins le quart le lendemain matin, le texte qu'elle avait présenté la veille, sans aucun des amendements. Il a été voté par les quelques personnes restantes, une trentaine je crois, sur plus d'une centaine normalement, avec une toute petite majorité, et elle prétend que ça veut dire que le Knesset a voté sa loi. Enfin voilà, tout ça, c'est un excellent exemple de cette stratégie de passage en force absolue, de refus d'écoute, de l'ensemble, parce que il y a eu les sociétés académiques, la CPU, le CNU, les universités, les grands... groupes de disciplines des organismes, enfin de très très nombreux organismes et de très nombreuses personnes ont essayé de leur faire comprendre que non, c'est pas ça la loi dont on a besoin d'une loi, mais d'une autre loi, remettez tout sur la table, on rediscute, nous qui sommes du métier, qui sommes du terrain, on vous dira de quoi on a besoin, ils ont absolument écouté personne. Donc voilà, effectivement, c'est plus qu'un passage en force, c'est vraiment une forme de mépris total des gens qui sont censés être concernés par ce projet-là.
Oui, donc au final, une loi totalement unilatérale. Et pour conclure d'ailleurs, si l'adoption de la loi fait un petit peu parler quand même ces derniers jours, c'est notamment du côté des étudiants à propos d'un axe particulièrement sensible qui a été ajouté à la loi en dernière minute. Il s'agit de l'introduction d'un délit d'entrave, un délit qui prévoit de punir de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende toute pénétration dans les locaux universitaires dans le but d'occuper les bâtiments. Bon, pour le gouvernement, il s'agit bien évidemment d'éviter les blocages étudiants et les troubles lors des prochaines mobilisations en pénalisant ce mode d'action courant de la lutte universitaire. Mais les critiques sont vives aussi du côté des enseignants-chercheurs qui parlent parfois d'une mesure sans précédent. Pour Sylvie Bauer, présidente de la commission permanente du Conseil national des universités, le CNU, je cite « Les blocages dérangent beaucoup, c'est donc une façon de couper tout ce qui relève du débat politique polémique ». Vous partagez ces points de vue autour de ce nouveau délit d'entrave ?
Alors, je le partage d'autant plus qu'il est plus grave encore que ce que vous venez de dire, parce que c'est pas pénétrer dans les locaux, c'est pénétrer dans l'enceinte de l'université, c'est-à-dire pénétrer sur le campus. Donc, vous voyez dans une université comme la nôtre à Rennes 2, sur le campus Villejean, où le campus est ouvert à la libre circulation, ce que ça veut dire, hein, ça veut dire que ce campus serait d'une certaine façon fermé, privatisé. Il faudrait contrôler les accès, mais on n'a pas de barrière, on n'a pas de grillage et on n'en veut pas, d'une part. Et puis, c'est dans le but de... Il ne s'agit pas de condamner les gens qui ont effectivement commis des actes, quoi qu'on pense d'une éventuelle condamnation des actes en question. C'est des gens qui pénétreraient dans l'enceinte de l'université sans y avoir été invités. Ça ressemble à quoi une invitation à pénétrer sur une enceinte universitaire ? Dans le but de, c'est-à-dire juste avec l'éventuelle intention. Donc ce texte est gravissime, y compris du point de vue du droit, parce que ça voudrait dire qu'on punirait des gens pour une intention supposée et non pas pour des actes commis. Donc il est gravissime de ce point de vue-là. La deuxième chose, c'est que effectivement, je suis d'accord que c'est une façon d'empêcher les luttes syndicales et politiques sur les campus, alors que c'est un droit qui s'exerce partout, y compris hors des campus, et donc qui doit pouvoir s'exercer sur les campus. Et enfin, parce que c'est une atteinte aux franchises universitaires. Il ne faut pas oublier que depuis le Moyen-Âge, il y a une tradition très ancienne qui fait que les campus universitaires bénéficient d'une forme d'extraterritorialité, c'est-à-dire que c'est le chef d'établissement, chez nous c'est le président de l'université, qui exerce les modalités de police, donc est responsable de ce qui se passe sur le campus, et les forces qu'on appelle parfois de l'ordre, que je préfère appeler de police, n'ont pas le droit d'y pénétrer, sauf à être appelées par le chef d'établissement. Et là, c'est une façon de contrôler par la loi ce qui se passe sur le campus en l'imposant à la communauté universitaire. Donc c'est aussi une atteinte de plus à l'indépendance universitaire, puisque c'est une atteinte à la liberté de ce que nous avons tous ensemble à y faire, sans que personne d'extérieur ne doive normalement nous limiter. Donc c'est grave. Et puis là aussi, on est dans le passage en force. Je vous rappelle que c'est un amendement qui a été adopté par la commission mixte paritaire Sénat-Assemblée nationale, hors de tout débat démocratique, tard le soir, et voté par quelques personnes qui se comptent sur les doigts d'une main ou des deux mains. Donc c'est grave à tous ces titres.
Bon, et bien voilà pour cet entretien on ne peut plus nécessaire sur l'adoption toute récente de cette très polémique loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Merci beaucoup Philippe Blanchet d'avoir bien voulu répondre aux questions de l'inattendu afin d'importer cet éclairage essentiel à cette loi qui, on le redit sous couvert de bonnes intentions, fragilise largement la pérennité de la recherche universitaire tout en s'inscrivant dans une logique libérale contraire, totalement contraire aux objectifs initiaux de l'enseignement supérieur. Merci beaucoup à vous pour cet entretien.
Je vous en prie, merci aussi.